libre radio noctambule, au devers du tintement des lucioles, sous le bruissement des feuillages, se dissimulent brasier, tumulte et sédition. Libre radio, le message derrière le message, derrière le message. www.libradio.org.
Voilà, donc nous sommes toujours en direct depuis le bus Cartouche, juste derrière la gare Cornavin à Genève. Pour celles et ceux qui nous écoutent, eh bien, rejoins-nous, tant qu'à faire. Et nous sommes maintenant en compagnie de Jean-Claude. Jean-Claude qui fait partie, qui va se présenter d'ailleurs lui-même. Bienvenue, déjà. Est-ce que tout va bien pour toi ? Merci de ta patience. On a déjà débordé avec le premier sujet, avec les petits jeunes du GLIP. Mais c'est vrai que c'est une question importante et elle a son actualité avec cette initiative populaire pour laquelle ils se mobilisent et ils recherchent des signatures en ce moment. Alors Jean-Claude, donc tu es vice-président, si je ne me trompe pas, du collectif...
Co-président.
Voilà, co-président, pardon, du collectif 17 octobre, ce collectif dont le nom finalement a un sens, puisque c'est la journée mondiale pour le refus de la misère dans le monde. Si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait. C'est une journée qui est donc reconnue maintenant par l'ONU. Donc, comme il y a la journée contre le sida, la journée des femmes, il y a la journée du refus de la misère qui est effectivement le 17 octobre.
Voilà, et j'imagine que c'est pour cela que vous avez choisi ce nom-là pour le collectif.
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est donc un projet qui... en fait, c'est parti du fondateur d'une association que peut-être les gens connaissent, qui est ATD Quart Monde. Donc une association qui essaie justement d'aller au plus près des personnes en précarité et de les approcher en tant que citoyens, en tant que personnes qui sont compétentes et qui sont expertes des problèmes finalement dans lesquels elles baignent au quotidien. Et ce monsieur, monsieur Wrzesinski, si je ne me trompe pas, a décidé de faire à un moment donné des actions qui permettent de donner la parole aux personnes les plus démunies. Et il a réussi à faire avaliser ça par l'ONU. Donc voilà, tous les 17 octobre, ou les week-ends autour des 17 octobre, c'est mondial. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent à Bangkok, à New Delhi, à New York. Chaque communauté, chaque ville, chaque village peut faire des actions. Et ici à Genève, donc c'est un collectif en fait, d'associations qui s'est constitué. Donc c'est un collectif qui comprend plus d'une vingtaine d'associations. Alors comme ça, au hasard, on a comme partenaire l'Agora, donc c'est les aumôneries auprès des requérants d'asile. On a le bateau Genève, Caritas, le centre social protestant, Espace solidaire à Paki, Maisomrom, on a quelques communes qui nous soutiennent. Et voilà, donc certaines de ces associations nous assure un soutien logistique, d'autres ont certains membres qui ont formé donc ce collectif qui prépare en fait les événements relatifs à cette journée du 17 octobre.
D'accord. Alors là, on en arrive, nous sommes à l'aune de la 30e année de la journée mondiale du refus de la misère.
Oui, c'est un anniversaire cette année. Effectivement, ça va faire 30 ans donc, que cette journée existe. On va préparer comme chaque année un événement, une collection d'événements, parce qu'en général on en fait plusieurs. Généralement le point d'orgue est en fait une séance à l'ONU, parce que avec New York nous avons la chance d'accueillir l'ONU est présente à Genève et du coup on a la possibilité d'aller à l'ONU et non seulement nous organisateurs avons la possibilité d'aller à l'ONU, mais ça, à la limite, on s'en fout complètement. Nous, ce qui est important, c'est que tout le monde, tout un chacun peut venir. C'est gratuit. Il suffit de s'inscrire, d'avoir une pièce d'identité valable. Il y a une adresse mail à laquelle il faut juste envoyer ces informations personnelles, le nom, prénom.
Ça, on trouve toutes ces informations-là sur le site d'ATD Quart Monde.
On doit pouvoir la trouver, je vais bien vous la donner là parce qu'elle n'est peut-être pas facile à donner. C'est équipe.genève.
Oui, oui.
@atd-quartmonde.org.
Très bien. Et puis moi, je vais donner le site internet de ATD Quart Monde, c'est car-monde.ch.
Car-monde en un mot.
Alors attends, ouais,
on va... je vous la redonnerai peut-être plus tard pour.
Moi j'ai ça, mais effectivement on va préciser ça pour que les personnes.
Voilà, d'autant plus que cette année il y a un spectacle parce qu'ATD Carmonde fête aussi un anniversaire, je ne sais plus exactement lequel, de quelques dizaines d'années je crois, 70, 80 ans, de leur... et ils présentent un spectacle, un théâtre musical sur l'injustice. L'humiliation et la violence. Donc, c'est l'occasion. C'est un spectacle qui a tourné dans toute la Suisse romande, peut-être même en Suisse allemande, mais en tout cas, c'est l'occasion de venir le voir ce jour-là.
Absolument.
Dans l'ONU, en plus, c'est quand même assez exceptionnel pour avoir un spectacle dans l'ONU.
Le collectif 17 octobre, depuis quand existe-t-il à Genève ?
Alors, à Genève, moi, je ne suis pas dans le collectif depuis le départ, et là, je crois que ça fait 7-8 ans. Il y a des actions qui sont faites toutes les années ici à Genève, dans des lieux divers. Ça a été fait à la Barque, au bateau Genève, au centre de la Roseraie, au bain des Paquis, maison de quartier des Libellules. On l'a fait aussi sur la place du marché de Versoix. Donc on est, voilà, on cherche chaque année un petit peu un endroit qui puisse nous accueillir.
D'accord.
Et cette année, comme c'est le 30e anniversaire, on avait envie de faire quelque chose... d'un peu plus important que ce qu'on fait d'habitude. Donc, on va, le point fort de ce moment va être en fait un parlement des inaudibles. On a appelé parlement des inaudibles. L'idée étant de... tout le monde, finalement, participe à faire tourner une cité. Quelle que soit, finalement, son appartenance sociale. Or, le problème, c'est que vous allez voir chez les élus, les personnes qui vont prendre des décisions dans les institutions démocratiques, vous n'avez pas beaucoup de maçons, vous n'avez pas beaucoup de terrassiers qui vont se faire élire. Il y a tout un jeu politique à suivre. Oui. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui ne rentrent pas, qui ne sont pas dans ce jeu politique, qui n'appartiennent pas à un parti, qui ne sont pas prêts à rentrer dans ce jeu-là, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à dire. Donc on a décidé de faire une sorte de travail de commission, si on veut bien, pour reprendre un peu les termes consacrés, le vendredi 13 octobre. Je reviendrai un peu peut-être sur le programme.
Tout à fait, oui, on fera une deuxième partie où on égrènera vraiment le programme à proprement parler, mais tu peux d'ores et déjà annoncer les points saillants, bien entendu.
Oui, après le samedi 14, l'idée c'est justement, par rapport à ce qui s'est dit la veille, d'inviter les personnalités politiques. On a envoyé des invitations aux parlementaires, aux conseillers municipaux, en espérant qu'ils viennent le plus nombreux possible et des bords les plus diverses possibles, histoire justement de rentrer dans cette démocratie un peu idéale où finalement on partage pas seulement les mêmes idées, mais on va discuter aussi avec des gens qui nous sont différents, dans l'idée de trouver finalement un bien commun, donc un bien-être commun, où chacun puisse finalement être fier d'appartenir à la communauté dans laquelle il œuvre.
Tout à fait. Et puis, effectivement, partager les mêmes conditions, même pour un temps réduit, ça permet, j'imagine, d'ouvrir les esprits et d'ouvrir les horizons des personnes. Parce que finalement, on s'aperçoit, notamment à Genève, que des populations se croisent, mais finalement ne se rencontrent pas. Hein, entre les communautés, peut-être des communautés linguistiques, des communautés des différents statuts sociaux, des classes sociales que l'on peut observer avec, par exemple, les internationaux et puis les migrants, d'autres personnes qui, finalement, mènent des vies parallèles dans une ville, dans la même ville, mais sans finalement jamais arriver à se rencontrer.
Oui, et surtout que comme il y a pas mal de gens qui sont insatisfaits de la façon dont les choses se passent, et d'autant plus amers dans le sens où pas mal de gens se disent « mais voilà, j'aurais quelque chose à dire ». On le voit bien avec les réseaux sociaux ou ce qui sont pour moi un peu une perversion de ce que devrait être un agora, l'agora démocratique, c'est-à-dire cette sorte de place du peuple où on va discuter des choses qui concernent la cité, mais qui sont argumentés et où il y a un débat contradictoire et où on ne discute pas qu'avec des gens finalement qui participent, qui partagent notre bulle relationnelle.
Alors selon toi, cette agora justement est-elle manquante ? Est-ce que selon toi, ce sont justement les réseaux sociaux qui prennent la place et une place, je dirais, un petit peu frelatée de cette agora qui est manquante tout simplement dans la cité ?
Le problème, Je repense à la discussion qu'il y a eu tout à l'heure sur la publicité. On a quand même une société finalement qui est basée sur la consommation. Et quand on est en précarité, quand on n'a pas de logis, quand on est au minimum vital et qu'on a des enfants à faire nourrir et tout, c'est presque comment je pourrais dire ça, indécent de tout à coup se voir plonger jour après jour avec des trucs qui vous disent vous serez plus heureux si vous achetez tel truc ou tel bidule. Mm-hmm. Donc on est dans une société qui devient de plus en plus profondément inégalitaire. Et je dirais que pour moi, le problème, c'est pas... Parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui nous avait dit, au cours de ces échanges de paroles, dit, mais il ne faudrait pas une journée du refus de la misère, il faudrait une journée du refus de la richesse.
Prendre le problème à l'envers, c'est pas mal.
Oui, mais ce que je trouve intéressant, je crois que c'était Confucius qui disait, le problème, ce n'est pas l'absence de richesse, le problème, c'est le partage de ce qu'on a. Parce que finalement, on nous dit qu'on est en crise depuis 2008, mais finalement, il n'y a jamais autant de millionnaires, de milliardaires, et jamais autant de richesses, et jamais elles ont été aussi mal partagées. Et ça, pour moi, c'est une poudrière, et c'est pas du tout sain pour le vivre ensemble, d'autant plus qu'avec les problèmes qui se présentent, on voit bien qu'on arrive un peu dans un mur, on ne peut pas continuer à parler de consommation, les ressources étant limitées, il va bien falloir à un moment donné que les choses changent. Alors soit on prend un peu les choses en amont, puis on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a, avec qui on est, ou alors on va se prendre le râteau dans la figure, parce que on n'aura pas voulu voir finalement le train.
Ce qui arrive. Alors nous sommes effectivement à l'aune, on l'a dit, du 30e anniversaire de cette journée-là, funeste anniversaire, puisqu'effectivement si on pouvait s'en passer, on s'en passerait bien de ce type d'anniversaire. Toi-même Jean-Claude, tu observes ça ici depuis Genève, depuis quelques années j'imagine, justement ce monde changé, et quelle est ton observation, quelle est l'observation d'une personne par l'angle justement du collectif du 17 octobre, de ce qui se passe ici à Genève. Selon toi, les inégalités se creusent ou est-ce que des choses sont faites? La société civile, d'une certaine manière, répond, riposte à cet état de fait? Où en est-on selon toi? Et quel chemin prend-on?
C'est-à-dire qu'en plus, Genève est comme une ville riche. Le problème, c'est... Elle fait de moins en moins... je me sens de moins en moins citoyen de Genève. Alors, à la limite, si je vais dans les zones un peu plus périphériques, je vois maintenant, il y a la mode, c'est presque un phénomène de mode, mais d'occuper les parcs, de se retrouver, de sortir. On voit les succès je pense à certains concerts gratuits au Parc Lagrange, oui. Où on a encore vu aujourd'hui avec les Géants. Ouais. Quand il y a tout à coup un événement qui est très émotionnel, qui est populaire dans le sens où, contrairement par exemple aux fêtes de Genève, où finalement tout ce qu'on nous demande c'est de consommer, je vois que c'est difficile dans une ville où finalement de moins en moins de gens habitent le centre-ville. Il y a un énorme problème au niveau du logement. Alors, évidemment, Genève, c'est pas élastique et puis c'est pas évident de pouvoir trouver une solution. Une bonne solution, mais quand même j'ai l'impression que il y a pas mal de... Je vais prendre un exemple. Oui. Là par exemple, les personnes qui sont à la rue, l'hiver, il y a un abri de protection civile qui est ouvert. Mais il est ouvert dans des moments de grand froid, il faut des conditions, je crois plusieurs jours de froid, etc. Les gens qui logent ne peuvent pas... Il logeait plus une certaine durée. Et c'est le seul lieu, finalement, de tout le canton qui offre comme ça un abri d'urgence, à l'exception de l'accueil de nuit de... C'est l'armée du Salut.
C'est l'armée du Salut.
Qui le gère, oui. Au chemin Galif.
Exactement.
Qui est tout le temps plein. Il y a tout le temps une file d'attente devant. C'est juste inadmissible qu'il n'y ait que ce lieu-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, j'avais travaillé dans un centre d'accueil de requérants d'asile non enregistré. C'était en 1989. Ça s'appelait le Cheran. Et c'était aussi un collectif d'associations, finalement. Il y avait même l'armée qui nous prêtait des véhicules, des locaux, et la protection civile qui nous mettait à disposition des abris de protection civile dans différentes communes. Et c'était gérable en fonction du nombre de personnes qu'on avait à héberger. On pouvait demander qu'ils nous mettent un abri en plus à disposition. Justement, quand je vois maintenant que... problème des personnes qui n'ont pas de logement. Finalement, ça devient un problème où les communes, j'ai l'impression qu'elles se défaussent.
Oui.
C'est-à-dire que maintenant, c'est un problème, c'est à Genève. Alors Genève, la ville, le canton, les choses, pour moi, n'ont jamais été très claires, qu'est-ce qui appartient à l'un à l'autre. Mais on pourrait imaginer une meilleure responsabilisation des différents acteurs qui sont sur Genève, voire même, pourquoi pas aussi, au niveau du privé. Ça pourrait être tout à coup. C'est des idées tout à coup qui ont émergé à un moment donné de personnes qui sont confrontées à des problèmes de logement.
Mais qu'est-ce qui manque selon toi pour qu'on arrive à régler durablement ce problème du logement, par exemple, mais même de cette pauvreté qui j'ai l'impression est quand même galopante, en tout cas dans un certain nombre pour une certaine classe de la population. Comment est-ce qu'on arrive, selon toi, quels sont les outils dont on pourrait se doter qui nous permettent au moins de soulager ces personnes de manière durable et pas justement dans des solutions à chaque fois d'urgence qui sont reconduites d'une certaine manière et qui sont jamais finalement stables et qui du coup ne permettent pas à ce qu'une personne trouve la stabilité nécessaire à redécoller. Parce qu'au bout du compte, c'est vrai que si on est à Galif pour un temps limité, parce que les temps sont limités à Galif, eh bien comment peut-on imaginer que l'on recouvre, je ne sais pas, un travail, mais même une stabilité émotionnelle, sensible, psychique, dans un endroit dont on sait qu'il n'est qu'extrêmement précaire aussi quand même. Est-ce qu'il vous faudrait des abris permanents, reproduire le village, le hameau des cheminots par exemple, des initiatives comme ça?
Ça, moi, je trouve que c'était des très bonnes initiatives parce que je parlais là de la question des abris anti-atomiques pour des personnes qui sont à la rue. Ce n'est pas une solution, je dirais, acceptable en fait. Parce que franchement, vivre dans un abri anti-atomique pour avoir vu ce que c'était, non. C'est vraiment un truc d'urgence. La difficulté, vous voyez, il y a aussi... Vous parlez de se reconstruire à un moment donné. Quand tout à coup, vous avez, par exemple, l'hospice général qui vous met... Il n'y a pas d'appartement disponible, donc vous finissez dans un hôtel, si vous avez encore presque avoir de la chance. Certains hôtels ne tournent qu'avec des bénéficiaires de l'aide sociale et ils y posent des conditions. Donc c'est parfois difficile pour certains de faire venir leur famille dans leur chambre. Il y a des choses qui sont compliquées. Ça coûte extrêmement cher. Le loyer pour la collectivité. Donc finalement, pourquoi ne pas acheter un immeuble pour loger des gens? Alors, c'est des idées de nouveau qui surgissent, mais après, la faisabilité, ça dépend aussi d'une réelle volonté politique. Absolument. De nouveau, le gros problème qu'il y a aussi, c'est côté discrimination. Je vois par exemple quelqu'un qui est à l'aide sociale, très peu de gens osent le dire. Ah, t'as l'aide sociale, t'as un profiteur, c'est des gens, ils ont qu'à bosser. Enfin, on entend souvent ce genre de discours. Bon, trouver du travail, maintenant, ça devient un peu compliqué. Vous avez 50 ans, trouver du boulot, quand vous êtes à l'aide sociale depuis X temps, parce que du coup, vous n'avez plus droit au chômage, etc., ça devient compliqué. Et ce qui est aussi extrêmement intéressant de voir, c'est le parcours des gens qui sont à l'aide sociale. Pourquoi tout à coup on arrive à l'aide sociale? Et là on voit, moi je me rappelle d'un témoignage de quelqu'un qui disait, mais moi j'avais une maison, j'avais une bonne situation, tout allait bien, mais voilà, il y a eu séparation. Après, moi je n'avais pas trop allé crêcher, trouver un petit foyer, mais après il fallait que je tienne mon boulot, c'était compliqué, j'ai perdu mon boulot, j'avais plus d'appartement, plus de boulot, et je me suis retrouvé à la rue, et puis maintenant j'avais un bon salaire, et maintenant j'ai le minimum vital, quoi. Ouais. Et des cas comme ça, j'en ai entendu plus que de raison, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait à un moment donné que les gens acceptent que la situation dans laquelle on vit, surtout quand on fait partie de la classe moyenne, elle peut changer, elle peut se dégrader extrêmement vite. Vous êtes riche, à la limite, c'est peut-être très caricatural, mais vous avez un matelas, vous avez quelque part, vous avez une marge. De pouvoir tenir sur vos acquis.
Tout à fait, ouais.
Vous êtes en précarité, à la limite, vous avez le code, vous avez le mode d'emploi. Parce que justement, faire tourner une famille de 4 enfants, au bout d'un moment, on arrive à trouver des ficelles. Tout à coup, on sait qu'à tel endroit, on va peut-être payer des trucs moins chers. Et là, on va peut-être pouvoir bénéficier de denrées. Je pense à Partage, par exemple, qui récupère des invendus dans les magasins. Il y a le Café Cornavin, qui est notre partenaire,
aussi,
qui organise régulièrement une distribution de denrées alimentaires pour les personnes en précarité. Par contre, quand vous avez votre routine du quotidien dans cette espèce d'entre-deux là, qu'on appelle classe moyenne, finalement, c'est un peu un truc un peu inconfortable. C'est là où on paye le plus d'impôts en proportion. C'est là où finalement,
Oui, c'est effectivement un peu la classe sociale sur laquelle tout le monde se repose.
Oui, donc peut-être que parler de précarité, ça fait peut-être un peu peur parce que, je sais pas, peut-être qu'au fond d'eux, les gens sentent que c'est un truc...
C'est du champ des possibles.
Ouais, parce que on voit maintenant le nombre de gens qui travaillent, qui sont quand même à l'aide sociale, parce que bosser 8 heures par jour ne vous garantit pas de mettre la soupe dans votre assiette tous les jours. Donc il y a vraiment des changements sociétaux maintenant qui font quand même qu'à un moment donné, il va falloir se poser très sérieusement la question de comment finalement faire ensemble et pour parer justement, faire surtout que les gens puissent vivre avec dignité. Mmh. Il fut un moment où j'avais entendu une interview très intéressante d'un historien de la démocratie, de Pierre Rosanvallon, qui disait, mais voilà, aux États-Unis, au début de la fondation des États-Unis, quoi, les gens étaient fiers d'appartenir à ce pays. Ça veut dire que le gars qui était riche, qui était aisé, qui faisait partie, je ne sais pas, de telle ou telle institution, s'il voulait se faire un habit, il allait chez le tailleur, parce qu'il reconnaissait au tailleur sa qualité de citoyen et ses compétences de tailleur. Lui, il était compétent dans son truc peut-être politique, mais alors qu'à la même période, on est en France, on sortait peut-être de la Révolution française, mais c'est le tailleur qui devait aller chez le noble pour aller lui tailler un costard, quoi. Et je trouvais ça assez intéressant. Et moi, je pense qu'une société dont y appartenir, enfin, on n'a pas cette fierté d'appartenir à un effort commun, à quelque chose où on tire, pas qu'on va forcément tirer la couverture dans le même sens, ça c'est juste impossible, mais où on donne pas aux gens finalement la dignité, juste et aussi au niveau des compétences, parce que par exemple pour pas mal de questions liées à la précarité, peut-être que justement demander, on aime bien les experts maintenant. Alors on a des experts en plein de choses. Hein. Alors on nous dit oui, alors les experts en économie nous disent de ceci, les experts en médecine nous disent cela. Bah, pour régler les problèmes de précarité, ou en tout cas pour s'en occuper, pourquoi pas écouter les experts de la précarité qui sont peut-être ceux qui la vivent au quotidien et qui vraiment ont des choses extrêmement intéressantes à dire, justement parce que beaucoup ont un parcours de vie où la tête elle marche toujours. Hein. Peut-être que le porte-monnaie est vide, mais la tête pas. Pas forcément, alors, pas toujours. Et d'ailleurs, je dirais que dans certains milieux économiquement aisés, c'est pas non plus un gage que la tête fonctionne correctement non plus.
Complètement. Donc là, on observe qu'effectivement, s'il y a d'un certain côté, d'une certaine manière, un déficit de parole, hein, que la parole n'est peut-être pas donnée à celles et ceux praticiens du quotidien qui justement vivent ces expériences délicates-là, ce déficit de parole existe également au sein des institutions, des politiques qui, eux, peut-être ne savent pas écouter exactement aussi finement qu'il faudrait pour pouvoir répondre à ce problème de misère dont on constate qu'elle est effectivement galopante et qui est inquiétante également si on se place du point de vue de la durée. Parce que j'ai l'impression, il me semble, sans avoir de chiffres sous les yeux, que les personnes qui entrent dans une situation délicate y entrent pour plus longtemps qu'avant et même des fois pour finalement le reste de son existence. Hein. Les bénéficiaires typiquement de l'aide sociale le sont de plus en plus longtemps, si je ne me trompe pas.
Je n'ai pas de chiffres non plus, donc là je ne vais pas dire d'ânerie, mais quand même quand je vois pas mal de personnes qui au moment où quittent la vie professionnelle et commencent à toucher la retraite par exemple, ça devient des fois fort compliqué. Donc oui, c'est un problème qui est assez global dans le sens où les raisons... Quand la misère s'entretienne, que la précarité soit là et qu'elle se maintienne, elles sont quand même multifactorielles. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Ce qui est parfois un peu navrant, c'est de voir tout à coup des gens, je pense à certains travailleurs sociaux, qui se pensent faire de la gestion de flux. Il y a des gens qui rentrent à l'aide sociale. Alors du coup, il faut gérer cette quantité de personnes. Oui. Et là aussi, ce n'est pas évident. Franchement, moi, la première fois que je suis arrivé à l'aide sociale pour demander de l'aide, j'avais l'impression un peu d'arriver... alors déjà, demander de l'aide, waouh! Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Je ne suis pas le seul. Hein. Tout à coup, se dire, waouh! Maintenant, je suis dans la merde, il faut que j'aille demander de l'aide. Déjà, beaucoup de gens qui auraient droit à l'aide sociale ne font pas la démarche. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas assez répété. On parle peut-être trop de certains profiteurs, oui. Pas qu'ils n'existent pas. Mais on parle trop peu des gens qui essaient de se démerder autrement, qui deviennent autant entrepreneurs, hein, je pense par exemple aux dealers.
Oui. Non, mais tout à fait. Des études sont de plus en plus menées, en tout cas à Genève, nous avons pu, au titre de la radio, parler avec des professeurs à l'HETS qui, de plus en plus maintenant, les travailleurs sociaux sont formés à la détection effectivement de personnes qui auraient le droit, et notamment il y a des niches dans lesquelles c'est extrêmement compliqué. Une parmi ces niches, ce sont les familles monoparentales, avec par exemple une maman et un enfant, qui effectivement, débordés de toutes parts, ne font même plus la recherche de ce dont ils auraient droit, c'est-à-dire à une aide, même partielle, hein, sociale, parce qu'effectivement, assaillis par tous ces problèmes-là, ils ont des situations personnelles vraiment délicates, et bien ces personnes ne sont même plus en capacité d'aller chercher ce à quoi elles ont le droit. Alors je sais qu'en tout cas, il y a une veille qui se met en place peu à peu. Nous-mêmes, on essaie de relayer ça à la radio, mais comme tu le dis, on est encore dans des situations où beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles ont droit, même, à un peu, un morceau d'aide, disons.
Déjà, il faut les connaître, ces droits. Déjà, alors là, ben, évidemment, normalement, chacun citoyen est censé connaître ses droits. Mais quand on voit, par exemple, dans mon rapport avec le SPIS général, parfois, d'année en année, les règlements changent. Tout à coup, on nous met le quasi. Après, il n'y a plus le quasi. Après, il est, mais sous façon conditionnelle. Puis après, pas. Puis après, tout à coup, ben, les histoires d'héritage, on m'avait raconté deux, trois... ah, mais ça marche comme si, tu verras. Puis quand j'ai eu, après le décès de mon père, j'étais toujours je suis toujours à l'aide sociale. Ah oui, non, mais c'est plus comme ça. Alors évidemment, ben, c'est pas très sécurisant non plus. Et, non. Et puis là, c'est d'autant plus difficile de dire, ah, mais attendez, moi j'ai droit à ça. Ça, voilà, c'est dans mon droit.
Ouais, on a une posture tout le temps recroquevillée, effectivement.
Mais oui, et en plus, je dois dire qu'après avoir passé des années à l'aide sociale, il y a quelque part une sorte de rabotage de l'estime de soi. C'est-à-dire que souvent, vous avez des aides qui sont à la limite soumises à conditions. On va bien vous aider, mais alors il faut que vous fassiez un effort. Il faut que vous produisiez des preuves. Vous êtes à la rue, vous voulez un appartement, mais il faut que vous produisiez des preuves, monsieur. Ah ouais, c'est quoi la preuve? C'est de faire la manche pour pouvoir manger son crouton de pain? C'est quoi faire des preuves à ce moment-là? Donc on voit que c'est pas évident et du coup ben, on se sent plus trop citoyen. Vous êtes à la rue, tiens, citoyen, vous avez plus de 18 ans, vous êtes suisse, vous avez le droit de vote. Vous êtes à la rue, votre bulletin de vote, vous allez chercher où?
Ah oui, bien sûr. Non, non, mais il y a moult choses dont on n'a pas idée.
À la limite, le jour où les pauvres voteront, peut-être que les élus s'intéresseront à leur sort.
Ouais, effectivement, dire, c'est un peu il y a ce côté d'invisibilisation,
mais,
bien sûr.
Mais des fois, c'est intéressant de voir qu'on n'est plus des citoyens comme les autres. Quoi.
Ouais. Alors, Jean-Claude, ce qu'on va faire, c'est que comme là, le temps commence un petit peu à presser, malheureusement, avec le retard qu'on avait pour la mise en route de cette émission un peu spéciale depuis le cartouche, nous allons faire une petite pause musicale et ensuite, nous allons revenir au programme de ce 30 de la journée du refus de la misère. Nous allons parler par la suite également en droit, puisque les personnes de la permanence juridique des étudiants sont présentes parmi nous et qu'elles vont ensuite elles vont passer ensuite à l'interview comme toi. Ça va être certainement intéressant, peut-être si jamais vous avez envie de réagir à ce que l'on dit là par rapport justement à l'accès aux droits de personnes qui sont mises en difficulté par les vicissitudes du quotidien et de la vie, eh bien sentez-vous libre de le faire, hein, quoi qu'il en soit. Alors je te propose qu'on fasse comme ça, une petite page sonore, comme ça on reprend notre souffle, juste derrière on en revient vraiment au programme à proprement parler, des différents, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses sur ces différents jours du 30 du 30e anniversaire de la journée du refus de la misère. Et puis nous allons poursuivre dans ce sens-là, si ça te va.
Très bien, parfait.
Ok, alors on y va comme ça. Petite pause musicale, on le rappelle, pour les auditrices et auditeurs, si jamais elles souhaitent interroger nos invités, eh bien, rien de plus simple, à l'adresse suivante, info@libradio.org, ou alors via la page Facebook de l'émission, c'est... Oh, magnifique. C'est la page La Comète à la Banane. Nous allons écouter une chanson qui est splendide, qui, moi, personnellement, me touche également beaucoup. C'est Milva, une chanteuse italienne, qui chante une chanson en hommage à des résistants, des personnes en lutte à l'époque, dans les années... Ouf, ça fait un moment. Ça s'appelle I morti di Reggio Emilia. C'est parti.
Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, son morti dei compagni per colpa dei fascisti. Di nuovo come un tempo sopra l'Italia intera urla il vento e soffia la A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti son morti sui 20 anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani, vecchi partigiani. Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli. È sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre quell'eguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte pur Ovidio Franchi e voi Marino Serri, reverberi e parioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.